mission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques, il s'enfermait toute la journée.
Micmac, l'émission de mensuelle de sortir du nucléaire Dromardèche. Sur Radio Méga 92 à Valence, tous les le premier lundi du mois bien sûr, et maintenant sur Déclic Radio, tous les vendredis, enfin le premier vendredi du mois également, à Tournon, Déclic Radio 101.1, Radio Méga, Méga 99.2. C'est difficile à partir ce matin. On en profite pour vous parler de la campagne de soutien qu'organise Radio Méga. Radio Méga nous dit qu'il a besoin de nous, et bien c'est vrai. Votre radio associative, curieuse et éclectique telle qu'elle se présente, lance sa première campagne de dons, parce qu'une radio associative, ça s'écoute, mais surtout, ça se défend. Vous pouvez faire un don avec un reçu fiscal, alors pour donner, c'est très simple, soit passer à la radio, 35 rue Prompsoy à Valence, soit envoyer un chèque par la poste, soit vous pouvez payer par PayPal sur www.radioméga.com. Voilà, il y a une réunion ce soir à 18h pour tous ceux qui veulent, c'est à Radio Méga également. Et le programme pour les jours à venir de programme de soutien, le jeudi 4 décembre à 19h30, il y a les Nexbourses au Lézard Café avec Béné et Christelle Roveda. Et le samedi 6 décembre, l'heure du rendez-vous est affichée encore, mais ce sera Place d'Éclair à Valence. Voilà pour le soutien à Radio Méga qui nous accueille, nous, maintenant depuis 2 ans, et nous sommes très fiers. Avant d'attaquer notre interview du jour, nos billettistes, alors nous allons recevoir par contre aujourd'hui Stéphane Perron du collectif pour les Chambarans sans Center Park. On va développer tout à l'heure. Et maintenant, nos deux billettistes en colère. Georges, c'est à toi.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Voici les dernières nouvelles de Fukushima, d'après Fukushima Blog. Tout d'abord, l'organisation Human Right Now et 40 organisations de la société civile issues du Japon et de 7 autres pays viennent de publier une déclaration demandant la révision du rapport du Comité scientifique des Nations Unies sur les conséquences des émissions radioactives sur Fukushima. Ce texte démontre que personne n'est dupe, même au sein de l'UNSCLAR, et confirme une critique internationale à l'encontre du déni général sur les conséquences sanitaires de la catastrophe nucléaire orchestrée par les grandes organisations onusiennes. Il réclame aussi que la quatrième commission demande instamment à l'Assemblée générale de passer une nouvelle résolution recadrant le mandat fondateur de l'UNSCAR de manière à assurer que la mission première de l'UNSCAR soit de promouvoir et de protéger la santé publique et le droit à la santé des individus les plus vulnérables. Le principe de précaution devrait être employé quand il s'agit de déterminer les régulations concernant l'exposition, le nettoyage et la décontamination, ainsi que la radioactivité après un désastre nucléaire.
Et Georges, alors, à Genève, chez nos voisins suisses, on parle aussi de Fukushima.
Eh oui, le 29 novembre 2014, s'est tenu à Genève un forum scientifique et citoyen sur les effets génétiques des rayonnements ionisants, où interviendront 6 experts de renommée internationale, Japon, USA, Finlande, Angleterre, Allemagne. Un exposé sera fait en particulier par Shio Nohara sur les impacts biologiques de l'accident nucléaire de Fukushima sur le papillon bleu pâle des herbes. Cette étude récente confirme que les conséquences génétiques des faibles doses subies par les organismes vivants apparaissent comme une menace majeure pour les générations futures.
Dans la génération future de Fukushima et donc à Fukushima même, qu'est-ce qui se passe pour l'instant ?
Eh bien, beaucoup de choses. Au moment où TEPCO s'apprête à faire de grosses dépenses de communication pour annoncer la fin du transfert du combustible de la piscine de l'unité 4, nous continuons à recevoir des nouvelles du Japon par Ori Yasuo, dont les 3 derniers rapports sont riches d'enseignements. TEPCO, qui a du mal à dévier l'eau de la nappe phréatique, ne réussit plus à geler l'eau des conduits souterrains. Le système à LPS, censé décontaminer l'eau pompée, tombe régulièrement en panne. On ne sait pas encore comment on va démanteler les 3 réacteurs dont les cœurs ont fondu. On recommence à commercialiser du riz issu des territoires contaminés. Bon appétit. La route nationale numéro 6 a été réouverte malgré sa forte contamination. Les Japonais s'opposent toujours à la réouverture des réacteurs nucléaires et les territoires décontaminés par le passé sont à nouveau radioactifs. TEPCO, qui ne se reconnaît toujours pas responsable de la catastrophe et qui s'arrange pour diminuer les dédommagements aux victimes, va donc bientôt communiquer sur autre chose. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures avec Fukushima.
Merci Georges. Et comme Vanessa, notre billettiste acérée, n'est pas là aujourd'hui à cause du travail, c'est moi qui la remplace pour faire mon petit mot de colère également. Nous allons donc recevoir tout à l'heure un des animateurs de la campagne contre le projet inutile du Chambaran en Isère. Et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie ces projets inutiles et pourquoi les antinucléaires s'y intéressent-ils? D'abord, les projets inutiles, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de constructions très onéreuses en partenariat public-privé, ce qu'on appelle les PPP, où les finances publiques sont très sollicitées tandis que les bénéfices termineront dans les poches de l'industrie. Alors du bâtiment, c'est l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, le TGV Lyon-Turin, l'industrie du loisir, Center Park à Roibon, ou de la culture intensive comme pour le barrage de Sivens. Ce sont des projets refusés par les populations, dont les enquêtes d'utilité publique ont émis des avis défavorables et qui pourtant passent en force avec l'aide des préfets et d'une force policière massivement présente sur le terrain. Ce sont aussi des projets qui détruisent les zones cultivables ou des zones humides, particulièrement protégées par des directives européennes. Enfin, ce sont des projets remis en cause par des associations regroupant à la fois des riverains, des scientifiques, des partis, des syndicats et une jeunesse qui s'organise en ZAD, ce qu'on appelle les zones à défendre. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Le mouvement antinucléaire est particulièrement sensible à ces luttes qui se développent. Nous n'oublions pas que les premiers de ces projets dangereux et inutiles ont été les constructions des centrales nucléaires qui ont connu dans les années 70 et 80 de très fortes mobilisations populaires, Plogoff en restant encore une des mobilisations les plus exemplaires. Mais aussi parmi les projets actuels du nucléaire, plusieurs concernent l'énergie nucléaire et sont des grands projets inutiles. Les trois plus symbolique, le centre d'entreposage en profondeur des déchets de forte radioactivité sur plusieurs milliers d'années à Bure, dans la Meuse. À ITER, à Cadarache, alors Cadarache c'est tout près de chez nous, hein, c'est au nord d'Aix-en-Provence, aux confins des Alpes-de-Haute-Provence, du Var et du Vaucluse, qui est destiné à vérifier la faisabilité scientifique et technique de la fusion nucléaire comme une nouvelle source d'énergie. En fait, et même les scientifiques pro-nucléaires le disent, c'est surtout un véritable gouffre Afrique publique. Et en passant par, alors là vous avez dû en entendre parler tout dernièrement, par les réacteurs de nouvelle génération, EPR, dont un est en construction depuis plusieurs années maintenant à Flamanville, à la pointe du Cotentin en Normandie, et qui est passé en quelques années de 3 à 8 milliards d'euros, qui accumulent les retards et les dysfonctionnements, et des dysfonctionnements qui en plus mettent en cause probablement la sécurité de cette future centrale. On le voit donc bien pour nous antinucléaires, ces luttes et ces projets inutiles, ce sont les nôtres et ce sont nos luttes et nous sommes solidaires de nos voisins de la forêt des Chambarans à Roibon sur l'Isère. Et maintenant, musique.
Pumping that gas. All I wanna do is. see. Yeah, I got more records than the KGB. So no funny business. You already are.
Alors, nous sommes en principe avec Stéphane Perron. Est-ce que vous m'entendez? Allô, Stéphane?
Allô, oui.
Oui, bonjour. Bonjour, voilà. Bon, c'est jamais simple de passer par les téléphones. Donc, Stéphane, je te présente très rapidement un des animateurs, créateurs d'un collectif qui lutte alors contre la construction d'un center park en milieu de la forêt des Chambarans à Roibon, en Isère. On est au pied du Vercors, un petit peu au-dessus de Romans. Qu'est-ce que c'est que ce projet exactement?
Alors, ce projet, alors on connaît un petit peu les center parks au travers de la publicité donc télévisuelle pour ceux qui ont la télévision. Donc c'est une immense bulle aquatique, c'est du loisir aqualudique qui est sous bulle, chauffé à 29 degrés tout au long de l'année. Il y a des cottages pour accueillir les gens pendant quelques jours et on circule sur place à vélo. Donc les véhicules sont parqués et voilà, tous les déplacements sont en vélo. Donc il y a une jolie un joli projet vert, etc. Donc et ça créerait en plus 698 emplois localement.
D'accord. Et ça concerne de nombreux hectares ou c'est comme à Sivens par exemple un lieu relativement réduit?
Alors voilà, alors c'est là que le bât blesse, ça paraît un beau projet de développement durable, etc. Et quand on y regarde plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un projet gigantissime, puisque ça concerne 1000 bungalows appelés cottages, qui vont représenter une surface au sol avec toutes les installations, ils vont imperméabiliser 31,5 hectares. Et ça va avoir un impact. Alors ça, c'est l'enquête publique sur l'eau qui a donc identifié ça. On aurait un impact de 110 à 120 hectares sur les zones humides locales, puisqu'on est implanté sur une zone humide. Pour vous donner un ordre d'idée, à peu près, c'est 10 fois Sivens. Donc c'est énorme.
Oui, effectivement. On n'est plus dans les petits projets inutiles, on commence à être dans les grands, là.
Là, on est dans du très grand projet, et c'est pas le seul problème. Il y a d'autres soucis. Il y a énormément d'argent public qui est injecté dans ce projet, comme les autres projets inutiles d'ailleurs. On évalue au bas mot à 112 millions d'euros l'argent qui est investi, notamment au travers des fameuses niches fiscales, reconduites manu militari par Monsieur Cahuzac en 2012 pour favoriser donc le groupe Pierre et Vacances qui est derrière la marque Center Park. Il faut savoir qu'également que ce projet, il s'installe directement sur des sources. On est au sommet de deux bassins versants. On est également sur la porte d'entrée de la nappe phréatique. C'est vraiment le plus mauvais endroit qui soit. Et on nous dit que ça va créer des emplois locaux. Alors, ils vont résoudre le problème du chômage local. Alors, sauf qu'ils ne sont jamais interrogés de savoir...
Avant qu'on parle du chômage, excuse-moi, pour revenir un tout petit peu, on va en parler sur le chômage et puis l'effet impact, mais sur ces finances publiques, on est dans un financement, ce qu'on appelle PPP, partenariat public-privé, si j'imagine.
Ah mais complètement, il y a même le conseiller général qui a décidé d'investir 7 millions d'euros à l'intérieur de l'enceinte du centre du Center Park, en fait.
C'est-à-dire que nous tous qui aujourd'hui préparons la construction d'un Pour Pierre et Vacances, quoi, grosso modo.
Totalement. Toutes les collectivités sont investies massivement dedans et l'État. Donc, on participe tous à ce projet, en tout cas, que l'on juge inutile, bien sûr.
On peut s'étonner quand même un petit peu de voir donc un grand projet comme ça, privé d'une certaine façon, sur une zone reconnue comme étant humide, est-ce que tous les avis étaient favorables du Conseil national de la protection de la nature, les enquêtes publiques, tout ça, ou qu'est-ce qui s'est passé autour de ces enquêtes?
Tous les avis des experts sont unanimement négatif. Le CNPN, le Comité National de la Protection de la Nature, hein, qui est une commission missionnée par le ministère de l'Environnement, a émis un avis négatif pour la destruction des espèces protégées. La commission d'enquête, loi sur l'eau, a émis unanimement, avec les trois commissaires enquêteurs, et de manière extrêmement détaillée, un avis négatif, défavorable sur ce projet, dont un seul, il y a eu 12 arguments hein, qui motivaient ça, un seul des arguments suffit à annuler ce projet. Et pourtant, le préfet de l'Isère s'est assis sur tout ça, en donnant les autorisations au mois d'octobre. Trois jours après la dernière autorisation, les travaux débutaient sur le Center Park, donc sur le site, sachant, je rappelle au passage, que Pierre Vacances avait défend une image verte, etc. Ils avaient promis de faire les travaux à la période froide, hein, pour pas avoir trop d'impact sur les espèces animales. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les travaux ont débuté le 20 octobre. Le mois d'octobre a été un des mois les plus chauds jamais identifié encore en France. Donc ça veut dire que ça a été un vrai carnage depuis un mois, là, un mois et demi, c'est un vrai carnage dans les champs barrants. Tous les amphibiens sont dehors, etc. Donc voilà.
Alors que le préfet ou aussi des élus, parce que tant qu'on y est, autant que sache, quand on a, nous dans le coin, dans la région, à voter pour des élus, autant qu'on sache ceux qui s'engagent pour ou contre, il y a aussi des élus locaux qui soutiennent ce projet.
Ouais, si vous voulez, il y a toute une espèce de je dirais, un groupuscule d'élus qui se tiennent un petit peu les coudées franches avec une espèce de... C'est une ambiance malsaine avec des chantages non dits, hein, mais ils se tiennent un peu tous comme ça. Le principal élu, c'est le maire de Roibon, hein, donc l'actuel maire de Roibon, puisqu'il y en a eu un juste avant, qui veut absolument ce projet. Mais pourquoi ils veulent ce projet? Parce qu'aujourd'hui, la situation financière de la commune de Roibon est dans un état lamentable. S'ils ne font pas le projet de Center Park, la commune passe sous tutelle financière de la préfecture. Et là, il y aura une enquête pour savoir quels sont les responsables de cet état dramatique de la ville de Roibon. Donc c'est pas par hasard qu'on cherche à imposer un projet de cette sorte. Je rappelle simplement au passage que le maire de Roibon a accepté de vendre un terrain constructible à 30 centimes d'euros le mètre carré. C'est-à-dire un terrain où qui sera complètement viabilisé avec l'électricité, l'assainissement, tout sur place, 30 centimes d'euros. Alors que la commune est dans un état financier dramatique.
Ouais,
donc il y a vraiment un énorme problème de détournement du bien public pour un groupe, je le rappelle, qui est coté en bourse, hein, le groupe Pierre et Vacances, et qui aujourd'hui cumule les pertes. Ça veut dire que le modèle économique même est un modèle aujourd'hui en fin de vie, hein, qui a été dit très clairement dans la presse, hein, notamment le magazine Capital en février 2013. Donc il y a un vrai problème de logique à la base de choix. Des fonds publics pour soi-disant créer de l'activité économique.
Donc on voit un peu une fuite en avant financière. Alors tu parlais un peu de quelques conséquences sur la nature, là, les rivières qui se rejoignent, etc. Vous avez une idée à peu près quand même si ce projet s'installe en termes de destruction de la zone humide, quelles conséquences ça aura pour les villages ou les villes environnantes, en termes de destruction des espèces protégées, etc. Vous avez déjà fait une étude là-dessus?
Il y a pas seulement nos études, il y a les études, il y a toute la France qui parle aujourd'hui avec les inondations qu'on connaît actuellement. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une zone humide, elle sert notamment à réguler les eaux de pluie pour empêcher effectivement qu'il y ait un flot, une arrivée massive d'eau qui arrive dans des cours d'eau, donc c'est une espèce de drainage. Et aujourd'hui, le fait de miser 31,5 hectares sur la tête de masse de rivière, évidemment, ça va avoir un effet d'accroissement des crues. Il faut savoir que la rivière qui est juste en dessous, elle connaît chaque année des problèmes. Hein, le 23 octobre dernier, il y a le village, la ville de Saint-Donat-sur-la-Basse qui a eu un mètre d'eau à certains endroits. Donc, le fait de rajouter une ville en amont, et c'est ce qui est décrié par tout le monde aujourd'hui en France. Et pourtant, il y a le préfet de l'Isère qui a signé, les yeux fermés, ces autorisations. C'est absolument scandaleux.
Et on parle de mise en péril d'espèces qui sont protégées dans la région, parce qu'autour du Vercors, on a quand même pas mal d'espèces rares et protégées.
Ouais, tout à fait. Il y a 37 espèces protégées qui ont été identifiées. Il y en aura, en fait, en réalité, beaucoup plus, puisque il faut savoir que l'évaluation de ces espèces est faite notamment au travers d'études. Commandité par donc l'aménageur Pierre et Vacances. Il faut savoir que les cabinets d'études qui travaillent pour Pierre et Vacances, donc ils sont payés par eux. Donc ça veut dire qu'ils vont orienter les études Ben, finalement, pour essayer de faire passer au mieux les dossiers de Pierre et Vacances, donc trouver le minimum d'espèces protégées. Nous, on sait qu'il y en a bien plus que ce qui a été fait. Les études sont incomplètes. Tous les organismes, de toute façon, qui ont travaillé sur ce dossier, notamment le CNPN, a dit que le Comité national de la protection de la nature, je rappelle, il a refusé le dossier parce que c'était incomplet. L'ONEMA, l'organisme qui, pour les milieux aquatiques, hein, c'est un petit peu la police de l'eau, a eu un avis négatif concernant le dossier. En fait, il a dit qu'il ne pouvait pas se prononcer parce que les dossiers étaient incomplets. Enfin, voilà. Donc, on a aujourd'hui une ville de presque 6000 habitants qui s'installe comme ça, sur des zones humides, tout ça, avec des dossiers complètement incomplets, avec des avis négatifs. Voilà, c'est purement révoltant, et on peut comprendre maintenant aujourd'hui la colère des citoyens qui se mobilisent de plus en plus nombreux. Hier, ils étaient plus de 1000 sur le site, et c'est en train de grossir à chaque nouvelle manifestation sur le site.
On va reprendre, là on va faire une petite pause musicale, on va reprendre après sur le thème de l'emploi justement, qui est un peu le gros argument. Donc 2-3 petites minutes d'attente là, et on va écouter Bernard Lavillier, French Valley.
Viens petite sœur au blanc manteau, viens c'est la balade des copeaux. Viens petite girl in red blue jean, viens c'est la descente au fond de la mine. Viens nos grands shooter du désespoir, viens nos visiter mes lames et noirs. Viens nos chevaucher les gros rouleaux, et coincer la tête dans un étau. Viens petite femme de Saint-Tropez, où l'on fume la cam par les cheminées. Et si le bonheur n'est pas en retard, il arrive avec son gros cigare. Viens dans ce pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur ma peau comme tous des corps. Pour être peace and love et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la vie. Viens petite bourgeoise demoiselle, visiter la plage de Vindel. Ici pour trouver l'Eldorado, il faut une shooteuse ou un marteau. La vallée de la French, ma chérie, c'est le Colorado en plus petit. Y'a moins de chevaux, moins de condors, mais ça fait quand même autant de morts. Viens belle femelle tropicale, je t'invite par mon carnaval. Ici la cadence, c'est vraiment trop, ici y'a pas de place pour les manchots. Dans ce pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur ma peau comme tous des corps. Pour être peace and love et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la ville. Tu ne connais pas, mais t'imagines, c'est vraiment magnifique une usine. C'est plein de couleurs et plein de cris, c'est plein d'étincelles, surtout la nuit. C'est vraiment dommage que les artistes qui font le spectacle soient si tristes. Autrefois il y avait des rigolos, ils ont tous fini dans un lingot. Le ciel a souvent des teintes étranges, le nom des patelins se termine par ange. C'est un vieux pays, pas très connu, y a pas de touristes dans les rues. Viens dans ce pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur mes bras comme tous des corps. Pour être peace and love et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la vie. Viens petite sœur au blanc manteau, c'est la balade des copeaux. Viens petite girl in red blue jean, viens c'est la descente au fond de la mine. Viens c'est la descente au fond de la mine.
Vous êtes toujours sur Atomic Mac. Nous sommes avec Stéphane Perron de l'association. Alors, l'association s'appelle PCSCP pour les Chambarants sans Center Park. Alors, Stéphane nous parlait un petit peu des fonds publics. Le gros motif des fonds publics, c'est les créations d'emplois. 698 emplois, c'est vrai que c'est important dans une telle région, mais est-ce de vrais emplois ?
Alors, c'est la question en fait. On parle beaucoup d'emploi, créer de l'emploi, etc. Mais la question, c'est de savoir, mais créer des emplois pour qui ? Et il est dit derrière ce projet, parce que tout se fait, on a l'impression au doigt mouillé, si vous voulez. On dit, on va créer de l'emploi, ça va amener la prospérité locale. Quand on regarde les gens qui sont en demande d'emploi aujourd'hui dans la région, je rappelle, effectivement, il y a un gros problème d'emploi. Hein. Il faut trouver des solutions. Mais aujourd'hui, quand on regarde la majorité de ces gens, ils sont sans qualification. Hein. Oui. Donc, que va proposer Pierre et Vacances, Center Parcs, à ces gens-là au travers de ce projet ? Eh bien, c'est simple. C'est pour la moitié des emplois proposés. Hein. C'est entre 240 et 360 euros par mois pour 9 à 12 heures par semaine. Est-ce qu'on résout le problème du chômage en donnant 240 à 360 euros par mois ?
Oui, voilà. Et puis, tous les métiers de style accueil, c'est relativement peu d'emplois et ce sont des gens qui viendront de l'extérieur, quoi, comme on a connu dans plein de projets.
Effectivement, il y a une grosse partie des emplois que tout le monde, finalement, peut-être reluque, hein, en termes de salaire, etc. Mais c'est beaucoup de gens qui viendront de l'extérieur. Donc, il va y avoir un afflux d'activités de gens qui vont arriver de l'extérieur. Mais est-ce qu'on résout la problématique des gens qui, aujourd'hui, attendent un emploi localement ? Avec tout cet argent public, la réponse, elle est évidemment non. Sur le Center Parcs de Moselle, rien que sur les trois premiers mois, il y a eu 30% de turnover. Ça veut dire que peut-être tous les gens qui attendaient à l'époque de travailler dans le Center Parcs, ils sont quasiment partis, quoi. Hein? Donc, dans les Center Parcs, on a un turnover qui est de cet ordre-là, à peu près 30% par an après, ensuite. Hein. Donc, il y a certains Center Parcs, comme celui de Sologne, par exemple, où il y a des cars qui partent très très tôt le matin pour aller chercher des gens, moi, jusque dans un rayon de 100 km.
Oui, c'est ce qu'on avait vu aussi en région parisienne avec Disneyland, par exemple, quoi.
Voilà, donc on retrouve, si vous voulez, une mécanique, je dirais, sociale qui va faire en sorte que ça va plus générer de la pauvreté que ça va amener de la richesse dans la région. Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que à côté de ça, comment les gens vont pouvoir vivre ? Ben évidemment, il va falloir qu'ils touchent un complément, un RSA par exemple. Donc ça veut dire que non seulement on donne énormément d'argent public pour ce projet, mais en plus il va falloir entretenir, rajouter de l'argent public pour maintenir les gens en activité dans ce Center Park. C'est complètement aberrant, quoi.
Mais ce sera pas Pierre et Vacances qui paiera, on imagine.
Exactement. Alors ils disent on va prendre les gens qui sont en emploi aidé, qui sont en demande forte, etc. Mais évidemment, puisque c'est les gens qui sont les plus faibles, les plus sensibles, donc ils vont prendre ceux qui sont les plus demandeurs. Sauf qu'au bout d'un moment, ça va créer beaucoup de mécontents et on va retrouver les grèves qu'on connaît déjà dans le Center Parcs de Moselle, de Picardie, etc. Quoi.
Alors, quand on t'entend parler, immédiatement, on se souvient comment parlaient les militants qui se sont opposés à Notre-Dame-des-Landes il y a deux ou trois ans, ce qu'on a entendu tout dernièrement à Sivène également, c'est quasiment en fait les mêmes problèmes, les mêmes façons. Manifestement, vous avez aussi le même préfet, c'est-à-dire un préfet qui semble vouloir passer en force. Dans les différentes actions que vous avez faites là, vous avez senti une pression policière forte sur le terrain ou ça commence à venir seulement maintenant ?
Je dis, elle est là, hein. Elle est là, elle n'est pas excessive. Il y a juste des petites choses un petit peu. Voilà, nous on a vu une voiture à un moment arriver sur la foule d'un roi bonnet qui était un petit peu énervé, donc c'est un roi bon, le Center Park, hein, donc les gendarmes ont pas bougé. Par contre, on a eu un contrôle systématique des véhicules qui quittaient la zone de manifestation. Donc voilà, c'est pas très fair play. La question est de savoir, voilà, est-ce qu'ils ont des consignes quand même pour un petit peu agacer, je sais pas, les manifestants. Moi je pense que la gendarmerie de devrait être là aussi pour notre protection, et il faut qu'ils soient impartiaux, quoi. Hein, c'est ce qu'on leur demande. Et c'est vrai qu'on voit là un petit début. Alors je sais pas comment ça va évoluer. Pour l'instant ça va. Il n'y a pas eu de provocation, etc. De problème. Mmh. Mais le mouvement prend de l'ampleur avec des gens peut-être de plus en plus radicaux aussi. Donc moi je sais pas ce qu'attend le gouvernement pour Monsieur Hollande là a fait une grande déclaration, il a dit on va faire des référendums locaux pour qu'il y ait une démocratie participative. Moi c'est magnifique comme déclaration. Mais il faut juste rappeler à Monsieur Hollande que les enquêtes publiques, ça sert justement à demander l'avis à la population. Donc il y a rien de besoin d'inventer quoi que ce soit d'autre supplémentaire, en tout cas ce qui concerne le Center Parcs de Roibon, il y a juste finalement ce que les services de l'État écoutent les enquêtes publiques, les commissaires enquêteurs qui ont travaillé, qui ont pris des experts pour travailler sur les dossiers. Et je rappelle quand même que lors de la commission d'enquête publique loi sur l'eau, 60% des gens qui se sont exprimés contre le projet. Donc, il n'y a pas besoin d'inventer autre chose. Il suffit simplement qu'on écoute l'enquête publique et on s'aperçoit qu'il y a un vrai problème. Et à ce moment-là, il faut annuler ce projet, quoi. C'est pas possible. Il faut
qu'on écoute l'écoute publique, les enquêtes publiques, mais aussi probablement qu'on attende que les démarches juridiques soient terminées, parce qu'il semblerait que les démarches juridiques que vous avez engagées vous sont en cours, mais ça n'a pas encore été jugé, quoi.
Oui, c'est quand même scandaleux. C'est qu'aujourd'hui, nous, on est certain que tout ce qu'a fait le préfet aujourd'hui, c'est illégal, quoi. C'est-à-dire que ça a été fait, le projet, il est hors la loi sur l'eau. Et pourtant, à la dernière autorisation signée, tout de suite, les travaux ont commencé. Ça veut dire que les tiers, le public, n'a aucun moyen d'arrêter les travaux, hormis de s'imposer physiquement sur place. Et c'est complètement scandaleux, parce qu'aujourd'hui, qui c'est qui paye? C'est la nature. On assiste à un vrai saccage. Aujourd'hui, il y a près de 40 à 50 hectares où c'était gorgé d'amphibiens et tout ça. Ça s'est fait massacrer. Aller sur place, il n'y a plus rien au sol, quoi. Donc, et ça, on a le droit de rien dire. Ça nous est imposé comme ça. Et aujourd'hui, tous ces avis-là sont consultatifs et il est là le vrai problème. Et si Monsieur Hollande, il veut la paix dans le pays, il faut déjà que on écoute les citoyens, on écoute les experts et on donne un temps pour aussi aller devant les tribunaux et laisser aux citoyens la possibilité de s'exprimer pour empêcher ce genre d'aberration, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ce que cherche à faire Pierre et Vacances, c'est à mettre les tribunaux devant le fait accompli en disant « bah vous voyez, tout a été fait, c'est bon, bah maintenant, on n'a plus qu'à continuer, quoi. »
Oui, c'est la même
et
course.
Ça, c'est scandaleux.
C'est la course de vitesse qu'on a déjà vue ailleurs, effectivement, quoi.
Ouais, tout à fait. Et c'est ce qu'on a vu à Sivens, pareil, ce qu'on a vu à Notre-Dame-des-Landes. Et tout, c'est des passages en force systématiques et avec, évidemment, la collaboration des préfets. Hein. C'est complètement scandaleux, quoi. Que ce soit uniquement, je dirais, les animateurs de ces méga projets soient écoutés, alors que le reste de la population ne l'est pas, quoi. Tenez Roibon, hein, les gens à Roibon, c'est que quand il y a eu l'enquête publique, ils disaient, ils péroraient partout que tout le monde voulait ce Center Park, on s'est aperçu à l'enquête publique que non, c'était pas le cas. Et ça, c'est assez déstabilisant quand même. On s'aperçoit que ces grands projets, ben non, ils font pas l'unanimité, et que voilà, mais que...
Oui, voilà, ils naissent plutôt dans la tête de quelques élus et, avant d'être une demande effective de la population, quoi.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors, votre association, là, pour les Chambarans sans Center Park, c'est une association qui regroupe d'autres associations? Vous fonctionnez comment?
Alors, nous, on est vraiment, si vous voulez, il y a plusieurs modes d'action, de façon de se poser à ce problème. Nous, on est un des modes, c'est-à-dire, on est la partie, on va dire, un petit peu légaliste. Hein, depuis le début, on attaque sur le plan juridique, donc devant le tribunal administratif. Voilà, donc on récolte des fonds, on essaye de financer les avocats, etc.
Et là, vous travaillez avec la FRAPNA et tout ça.
On construit aussi notre argumentaire pour expliquer au public. On a fait des réunions publiques pour expliquer exactement la problématique. Après, effectivement, il y a d'autres formes aussi de personnes qui agissent. Hein. Il y a des collectifs, notamment ZAD Chambaran, qui aujourd'hui organisent maintenant ils en ont fait une hier, là, qui a réuni plus de 1000 personnes.
Alors ZAD, ça veut dire zone à défendre. Hein. Ça vient un peu de Notre-Dame-des-Landes, quoi.
Absolument, ouais, tout à fait. Et des ZAD aujourd'hui, il y en a, je sais plus combien en France, mais il y en a énormément maintenant. Et à ce titre, voilà, il y a une conférence ce soir à Paris notamment sur ça, sur les victoires possibles, voilà, comment organiser, puisque on s'aperçoit ce travail qui a été déjà réalisé à Notre-Dame-des-Landes, à Sivens, tout ça, eh bien, sert ailleurs à d'autres. Et permet de voilà de créer une dynamique pour sauvegarder au final notre environnement, quoi.
Alors vous avez fait plusieurs manifestations quand même. Il y en a une hier qui était appelée un peu par la ZAD, si j'ai bien compris, c'est-à-dire par les jeunes, pour avec un objectif d'occupation un peu du terrain. Et il y a eu d'autres manifestations depuis le 20 octobre que vous avez organisées.
Oui, tout à fait. Alors depuis le 20 octobre, on en a fait deux. En fait, on a fait une manifestation le jour des travaux, hein, donc avec scotch à la bouche pour dénoncer effectivement cette enquête publique qu'on nous a retirée quelque part. Hein. On nous impose à tous les citoyens un projet où on a le droit de rien dire finalement. Donc on a mis, c'est tous mis un scotch sur la bouche pour dénoncer ça. On a refait une marche le 16 novembre dernier, hein, qui a réuni déjà 600 personnes. qui a été un vrai succès. On a pu commencer à se rencontrer avec tous les opposants et à essayer de structurer les choses pour que on aille vraiment vers un blocage in fine des travaux sous quelque forme que ce soit. Quoi.
Alors, et pour conclure un petit peu, les projets à venir. J'ai vu qu'il y avait une marche au flambeau qui était prévue, qui était distribuée hier à la manifestation, là, c'est le 6 décembre. Vous avez un site, vous avez des journaux.
Alors je vous invite à aller consulter le site pcscp.org. Hein, donc pour les Chambarans sans Center Parks.
Qu'on mettra sur le site de Sortir du Nucléaire.
Et donc ce site, vous avez toute l'actu qui concerne notamment ce projet. Pour conclure, moi je peux vous parler simplement de l'audience qu'on a le 12 décembre prochain au tribunal administratif.
Et vous appelez à un rassemblement
sur, qui effectivement va les juges vont se positionner sur arrêter ou non les travaux du Center Park le temps que les recours qu'on a posés à côté soient jugés etc. Parce que si ces travaux sont pas arrêtés, ça veut dire que le Center Park peut carrément être fini le temps que on est finalement un jugement qui dit que tout ça c'est illégal quoi.
Donc, alors, 12 décembre devant le tribunal administratif de Grenoble, j'imagine.
Pardon.
C'est devant le tribunal administratif de Grenoble.
Alors nous on va au tribunal administratif de Grenoble. Alors est-ce qu'on organise quelque chose sur place? Ça n'a pas été décidé encore.
D'accord.
Voilà, on est en réflexion. Nous ce qu'on veut c'est laisser les juges libres.
Oui.
Hein, de voilà. Donc après c'est vrai qu'il faut montrer quand même qu'on est énormément et très nombreux à être contre ce projet et c'est quand même bien que les juges sentent que voilà qu'il y a cette présence qui est là. Donc on ne sait pas encore ce qu'on va faire là.
Eh bien merci Stéphane. On va mettre sur le site de Sortir du Nucléaire de Romardèche toutes ces informations. Je vous invite effectivement à aller sur le site du PCSCP pour les Chambarans sans Center Park. Stéphane, on te remercie vraiment beaucoup de ton intervention. Et maintenant, nous allons passer à notre billet d'intox désintox de Jeanne. Merci Stéphane, au revoir.
Merci à vous, à bientôt, au revoir.
Au revoir Jeanne, c'est
Allez,
à toi.
Bonjour. Alors comme nous l'a indiqué Georges, les représentants de l'autorité nucléaire donnent des chiffres très surprenants concernant les conséquences de la santé suite à une catastrophe. Donc sur Fukushima, ça commence à se voir. Et sur Tchernobyl, j'ai un petit peu décortiqué tout ce qu'ils nous disent. Alors, d'où viennent ces chiffres déjà? Alors en septembre 2005, le forum de Tchernobyl, constitué des représentants de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNSCAR, de la Banque mondiale et des gouvernements de la Biélorussie, de la Russie et de l'Ukraine, a présenté un rapport en 3 volumes, l'héritage de Tchernobyl. Voici les conclusions principales du volume consacré aux problèmes de santé. Près de 4000 personnes ont trouvé la mort et peuvent encore périr de cancer radio-induit. Près de 4000 cas de cancer radio-induit de la thyroïde chez l'enfant ont été opérés avec succès. On observe une certaine augmentation des cas de cataracte chez les liquidateurs et les enfants vivant en territoire contaminé. Cependant, les facteurs tels que la misère, le sentiment de victime largement répandu parmi les populations sont bien plus dangereux que la radioactivité des retombées de Tchernobyl. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, comment ces chiffres ont-ils été obtenus et sont-ils fiables? La première constatation, c'est qu'un principe de droit n'est pas respecté, puisque personne ne doit être jugé parti. L'estimation des conséquences de la catastrophe de Tchernobyl faite par des spécialistes liés à l'industrie atomique ne peut être objective. Rappelons que l'Organisation mondiale de la santé doit, depuis la convention signée en 1959, demander l'accord de l'AIEA quand le nucléaire est en jeu. Elle ne fait pas d'études sans l'accord de l'Agence mondiale de l'énergie atomique. Deuxième constatation. Le rapport du forum de Tchernobyl, largement vanté par l'OMS et l'AIEA comme le tableau le plus complet, le plus objectif des conséquences de la catastrophe, ne mentionne que 350 publications, pour la plupart en langue anglaise, alors que la littérature scientifique consacrée aux conséquences de la catastrophe comptait en 2007 plus de 30 000 ouvrages et articles publiés pour la plupart en langue slave. Troisième constatation. Comme il est impossible de prendre en compte l'irradiation des premiers jours, et il n'y avait personne pour la mesurer, hein, qu'il est impossible de définir la part des radionucléides accumulés par le corps de chacun avec l'air, les aliments et l'eau, une stricte corrélation entre la maladie et la dose reçue ne peut être établie. Cette exigence de l'AIEA est peu fondée scientifiquement. Il n'est pas correct de rejeter les données obtenues par des médecins, praticiens et des spécialistes au cours d'examens de centaines de milliers de victimes parce que ne correspondant pas au protocole scientifique. Il faut extraire l'information scientifique objective des données recueillies par les médecins. Quatrième constatation. Le calcul est basé sur l'étude des conséquences des bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki. Cette utilisation est incorrecte car l'irradiation y était de nature complètement différente. Cinquième constatation. Le fait que l'AIEA et les autres organisations officielles aient ignoré les données sur l'énorme diffusion de la contamination de Tchernobyl sur la superficie du globe terrestre n'a pas d'explication scientifique et minimise les conséquences de la catastrophe. Sixième constatation. Maintenant qu'il est devenu impossible de cacher la hausse de la morbidité, d'année en année on voit diminuer le nombre d'enfants en bonne santé. À Kiev, par exemple, il y avait 90% d'enfants en bonne santé avant l'accident. Leur pourcentage a diminué, n'était plus que de 20% en 2006. L'AIEA nous explique que c'est dû à des facteurs socio-économiques et psychologiques. Je vous propose d'étudier ces arguments lors d'une prochaine émission.
Merci Jeanne. Je crois que pour les amateurs de Vanessa Paradis, on va peut-être couper la chanson à la fin. L'agenda de Céline maintenant, qui n'est pas présente, mais on vous l'envoie, nous a envoyé son petit message.
Assez peu d'événements encore pour ce mois de décembre 2014. Toutefois, eh bien, je vais profiter de cet agenda pour vous rappeler les actions mensuelles habituelles. Tout d'abord, eh bien, tous les samedis matins, place Porte Neuve à Valence de 11h à 12h30. Vous pouvez retrouver les obstinés de la place Porte Neuve avec lesquels vous pourrez discuter, échanger sur la question du nucléaire et en particulier le nucléaire dans notre région. Également une action habituelle, l'action du dimanche matin devant votre mairie, devant laquelle vous pouvez manifester votre opposition à l'industrie de l'atome. Voilà, donc l'action s'appelle tous les dimanches dire non au nucléaire. Le principe c'est d'aller devant la mairie de son village, de se prendre en photo avec banderoles et tous les signes ostentatoires de l'opposition au nucléaire. Et d'envoyer des photos prises sur la page Facebook de tous les dimanches dire non au nucléaire. La prochaine réunion mensuelle de sortir du nucléaire en Drôme-Ardèche n'aura pas lieu le quatrième lundi du mois comme à l'habitude, mais est avancée une semaine avant en raison des fêtes de fin d'année. Elle se tiendra donc le 15 décembre 2014, donc c'est un lundi comme d'habitude. Rendez-vous à 18h30 au local de la Frapna, avenue de Verdun, à Valence. Voilà, donc ça c'est pour venir, si vous souhaitez venir travailler avec nous sur les prochaines luttes anti-nucléaires. Voilà, je profite également de cet agenda pour reparler d'un événement qui se tiendra en 2015, qui est la chaîne humaine qui se tiendra cette année au sud de notre région, l'objectif étant de marquer notre présence entre les sites de Tricastin, Marcoul et Cadarache. Cette chaîne humaine se tiendra le 14 mars 2015. Si vous voulez d'ores et déjà vous informer sur cette manifestation qui viendra maintenant assez rapidement, vous pouvez aller sur le site chaînehumaine.fr. Pour finir, comme il y a assez peu d'actions ce mois de décembre 2014, je vous invite à vous rendre sur le site du réseau Sortir du Nucléaire, www.sortirdunucléairetoutattaché.org. Rendez-vous dans la rubrique Agir, où vous pourrez trouver plusieurs pétitions en ligne, notamment une sur les transports de matières radioactives, une sur l'implantation d'AREVA dans le nord du Canada, sur le domaine des Inuits, leur objectif étant d'implanter de nouvelles mines d'uranium, et également une pétition sur les armes à l'uranium appauvri. Voilà, merci à tous de votre attention et au mois prochain. Salut à tous.
Eh bien, on remercie Céline qui est absente parce qu'elle est en congé maternité et le bébé devait bientôt venir. Cette émission vous a été présentée par Jeanne. par Georges, par Dominique et par Jean-Pierre à la technique, aidé par notre camarade technicien de Radio Méga. Notre répondeur, c'est toujours le 08 05 69 67 58. C'est un appel gratuit. La prochaine émission, ce sera le 5 janvier 2015. Et si nous avons encore un tout petit peu le temps, on va vous balancer comme ça, parce qu'on l'aime bien quand même, Vanessa Paradis et Benjamin Biolay pour les quelques secondes, mais on nous dit que non. Eh ben, on vous mettra Benjamin Biolay la prochaine fois. Au revoir à tous.
Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement.